Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un voyage entre la rive sud de la Méditerranée, la rive nord, pour discuter d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat féminin, mais aussi de ce flux constant qui ne s'arrête pas entre ces deux rives lorsque l'amour pour le pays est ancré dès le plus jeune âge. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Fatema Boussola, bonjour.
Bonjour Yasmine, comment ça va ?
Un plaisir de t'avoir. Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remarque la Fatema.
Très bien, le plaisir est partagé Yasmine.
Alors toi, Fatema, tu es vice-présidente MIM by CGEM, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, MEM by CGEM, Marocain entrepreneur et haut potentiel du monde.
Ok, alors justement, j'allais te dire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Marocain entrepreneur et haut potentiel du monde, c'est bien ça ?
Exactement, exactement.
Ok, alors comment es-tu devenue vice-présidente de cette organisation ?
Très bonne question. Alors, en 2017, quand la CGEM a décidé d'ouvrir l'adhésion aux Marocains du monde, j'ai de fait tout de suite adhéré parce que pour moi, ça me semblait déjà opportun pour nous. C'était une vraie chance pour les Marocains du monde de pouvoir partager, être mentoré par ses pairs au Maroc. Ensuite, la proposition d'adhérer au bureau, elle est venue très naturellement en 2023 par le président Sikarim Amor.
Ok, tu as dit une très jolie chose, être mentoré par les Marocains. Dans la tête des gens, c'est souvent l'inverse, être mentoré par la rive gauche de la Méditerranée.
Ah bah alors, je peux vous dire que c'est un réel plaisir et bonheur parce qu'on apprend énormément avec nos Marocains entrepreneurs du Maroc, d'ailleurs, que l'on suit. Hein. Moi, il y a beaucoup de profils d'entrepreneurs marocains que je suivais. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est très facile, mais via des interviews télévisées ou des interviews journalistiques. Et lorsqu'on échange avec eux, on a tout à prendre d'eux sur des qualités ou des compétences que l'on n'apprend pas à l'école.
Et aussi par rapport à l'environnement d'évolution entre le Marocain du Maroc et le Marocain du monde, toutes ces nuances, toutes ces subtilités culturelles.
Et c'est exactement ça, l'environnement n'est pas le même. Et puis on pense toujours, et puis ça c'est dans l'inconscient collectif, que l'entrepreneur, mais ça c'est vrai aussi partout ailleurs, mais encore plus au Maroc, que l'entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui avait déjà des biens, qui était déjà dans l'industrie ou dans l'agriculture, alors que c'est faux. Enfin, j'en ai beaucoup côtoyé. Oui, il y avait peut-être un environnement propice, mais très, très honnêtement, ces entrepreneurs qui ont réussi, qui réussissent aujourd'hui au Maroc, c'est parce qu'ils avaient une audace, une force de caractère, et puis surtout, ils se sont coachés eux-mêmes.
Coachés eux-mêmes. Alors, toi, tu as quitté le Maroc à quel âge ?
Alors, moi, j'ai quitté le Maroc, j'avais 2 ans.
Ok. Tu fais partie de cette génération, deuxième génération, c'est ça ?
Oui, exactement. Mon père est arrivé début des années 70. Au départ, il pensait pas rester en France. Et puis, au final, il est resté et on a dû le suivre avec ma maman.
Mais toi, tu as gardé, enfin, je ne sais pas si tu l'as gardé toute ta vie ou c'est à cet âge d'adulte professionnel où finalement tu as une très grande connexion avec le Maroc. C'est-à-dire que tu y travailles, tu y contribues, tu fais partie de la CGEM, tu vis entre les deux rives pleinement.
Alors moi, j'ai toujours gardé le Maroc dans mon cœur et on me raconte, oui. Je pense que c'est vrai, que lorsque je suis partie, je leur disais « Ardouni l'bledi, ma barrièche,
m'sikina mami ». À deux ans, tu disais ça, « Ardouni l'bledi ».
Exactement. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi, cet amour pour le Maroc, pour la langue arabe, pour la religion. Enfin voilà, cette connexion avec le Maroc, elle a toujours été là. Après, j'avais un environnement propice aussi. Hein. J'avais un papa qui avait fait des études, qui enseignait aussi l'arabe ici en France. Donc, j'ai eu cette connexion, on va dire, facile, mais j'ai toujours su qui j'étais. J'étais marocaine, même si voilà, j'ai grandi en France, je suis aussi française. Et je reconnais la part d'éducation et je valorise aussi cette éducation que j'ai eue en France. Mais pour moi, le Maroc a toujours été là, toujours.
Alors, toi, plus que le reste de la fratrie, parce que justement, à 2 ans, tu dis « redonner le bladi ».
Oui, bien sûr. Plus que la fratrie, ils le sont aussi. Hein, ils sont connectés avec le Maroc, ils viennent régulièrement dès que l'occasion se présente. En fait, on provoque aussi les occasions. Nous, on a perdu nos parents, enfin nos deux parents. Ma mère, il y a un bon moment, il y a 16 ans, on était encore jeunes. Donc, on revenait aussi se recueillir sur sa tombe. On a eu la chance que mon père ait gardé les liens aussi avec la famille maternelle. Donc, nous, on a aussi gardé ces liens-là. Donc, on a toujours cette connexion. Alors, c'est vrai que moi, un peu plus parce que je suis engagée sur place, parce que j'y reviens, que je développe aussi pas mal de choses entre la France et le Maroc. Mais cette connexion, elle est presque vitale même. Elle est vitale.
Oui, c'est l'impression que tu donnes en fait. C'est l'impression que tu donnes. Parce que quand tu es au Maroc, tu es très active professionnellement. Tu donnes de toi en interview, tu donnes de toi en conférence. J'ai presque l'impression que tu es plus visible à travers tes activités au Maroc que ce que tu fais en France.
Oui, c'est exactement ça. Moi, je le dis toujours, hein, je revis quand je viens au Maroc. Après, j'ai été très active à un moment donné aussi en France. Après, il y a un environnement qui s'y prête un peu plus aujourd'hui au Maroc, mais il y a une nécessité, peut-être aussi avec l'âge, d'être... de plus communiquer, de plus accompagner, de plus donner, parce que quand on partage des expériences, quand on donne des informations, c'est aussi un don. Donc, à défaut, on est beaucoup dans l'associatif hein, déjà, mais à défaut de pouvoir être active dans des associations, on va dire, humanitaires, je le suis à travers... l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi un acte social lorsqu'on permet à des familles, à travers un salarié, d'accéder à un emploi. Et nous, dans notre métier, ce sont souvent ce qu'on appelle des petits métiers de service qui ne sont pas souvent pérennes parce qu'elles dépendent des missions. Mais en tout cas, si je peux contribuer à ma petite échelle, on va dire, à aider quelqu'un à accéder à une expérience professionnelle, je le ferai toujours.
L'autre jour, tu m'as envoyé un très joli message en me disant combien c'était important aussi pour les Marocaines du monde de s'écouter, parler mutuellement à travers notamment des podcasts, des interventions. C'est-à-dire, au-delà de la professionnelle, c'est la femme qui parle. En quoi c'est important ? Parce que peut-être que les femmes vivent des choses... ces femmes-là, vous en tant que femme, vivez des choses que moi je ne mesurais pas en fait en lançant ces projets-là.
Alors le premier bénéfice, c'est de pouvoir s'identifier, tout simplement. Il y a dans tous les podcasts que tu fais, Yasmine, et je t'en remercie. Moi, je trouve que il y a un grand acte de générosité puis un acte social. Moi, en tout cas, ça m'a permis, et je pense que les autres, c'est exactement la même chose, de découvrir un petit peu plus la société marocaine à travers les femmes. On avait, bien sûr, l'image des femmes qui nous entourent, des femmes de la famille que l'on voit lorsqu'on part en vacances. Ensuite, on rencontre d'autres femmes quand on a la chance d'adhérer à des réseaux comme le nôtre, à la CEJEUM, donc des femmes qui ont... un leadership extraordinaire, qui dirige des grosses entreprises au Maroc, qui sont très impliquées aussi dans l'associatif en lien avec l'entrepreneuriat. Donc je pense surtout à la FEM, We4Shift, enfin, toutes ces associations-là. Donc on a une vision de ces deux, on va dire, extrêmes, entre guillemets, j'aime pas trop dire extrêmes, mais entre les seules femmes qu'on va côtoyer, mais on n'aura pas la chance d'échanger avec elles ou de les écouter, ça va être les femmes... nos voisines, lorsqu'on a la chance d'avoir un bien, par exemple, au Maroc, ou des femmes de l'entourage géographique proche. Et d'écouter toutes ces femmes dans tes podcasts, c'est pour nous, en tout cas pour moi, un vrai indicateur, un vrai marqueur social, et on s'identifie à elles. Et au final, on n'est pas si différentes que ça.
Oui, parce que c'est l'essence féminine, en fait. C'est les problématiques qu'on côtoie au quotidien, c'est cette envie de se dépasser, au début peut-être pour les autres, pour les parents, mais ensuite c'est pour soi. Cette remise en question à laquelle nous arrivons presque toutes à partir d'un certain âge, c'est ça qui te parle, Fatema ?
Oui, c'est exactement ça. Et puis, ce sont aussi les parcours extraordinaires. Moi j'ai parcouru tous tes podcasts. Je suis à chaque fois mais émerveillée. Et puis, des fois, j'en ai même les larmes qui tombent sur les parcours, les témoignages. Et puis, cette poigne qu'ont certaines femmes. Donc, je pense... Alors, je n'ai pas les noms en tête, tu m'excuseras.
Bien sûr.
La dame qui fait des ménages, justement, pour subvenir aux besoins de sa famille. Et puis,
la Amina.
Ouais. Voilà, exactement, qui aide les autres femmes de son quartier en créant du lien, en proposant du coaching. Ça, c'est juste extraordinaire.
Ouais.
Un exemple, l'exemple justement que ce n'est pas une question de moyens, mais quand on se lève une fois pour toutes, bon, ben, on arrive à s'imposer, entre guillemets, dans la société. Et on n'a même pas à parler de s'imposer, parce qu'on a notre place dans la société. C'est aussi peut-être à nous de la prendre. Enfin, voilà, toutes ces femmes que tu as interviewées, au final, on peut puiser dans leur parcours et dans leur exemple. Et moi, je dis toujours que c'est un petit peu le boost du début de la semaine ou le boost du matin. Écoutez un des podcasts de Yasmine.
Alors, c'est adorable ce que tu dis. Alors, par rapport à toutes tes activités, je sais que tu es tellement dans beaucoup de choses, mais en même temps, le main core de tes activités, c'est le neuromarketing. C'est bien ça ?
Oui, exactement.
Ça continue ? Tu arrives à trouver un équilibre avec tout ce que tu fais, l'encouragement de l'entrepreneuriat, les conférences, etc. Tu arrives toujours à rester dans le cœur de ton métier ?
Alors, d'autant plus que j'y arrive, mais ça s'est développé d'une manière extraordinaire depuis que je suis engagée, on va dire. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont émergé parce que j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai pu échanger. J'ai eu la chance d'avoir des mentors qui m'éclairent. J'ai aussi, bien sûr, Sikarim Amour, à qui je confie mes problématiques et qui m'éclaire également. Donc, depuis que je suis un peu plus entre la France et le Maroc, depuis que j'y suis beaucoup plus présente, parce qu'avant, je travaillais entre les deux et je venais, on va dire, tous les 2-3 mois. Là, maintenant, c'est beaucoup plus régulier. Ça a pris une vitesse et une ampleur que je n'imaginais pas tout de suite. J'avais cette idée, j'avais cette projection. Mais aujourd'hui, on est sur... j'avais un projet de magazine sur la conso et le retail. Il prend jour. Donc le mois prochain, lancement le mois prochain. Je pensais que ce serait juste un magazine avec des articles. Et puis au final, ce sera un magazine vidéo avec des reportages. Nos applications, je pensais à l'horizon 2027, intégrer de l'IA, enfin d'autres idées. Puis au final... en parlant avec des clients, en proposant des tests, c'est ce qu'ils veulent là maintenant tout de suite. Et on passe par la phase test le mois prochain et le déploiement tout de suite après. Donc en fait, cette implication, elle a été, on va dire, un vrai moteur parce que aussi on rencontre des nos Marocains du monde qui ont entrepris et avec qui on échange. Et franchement, moi, j'ai pas de mal à aller voir, par exemple... un nom marocain du monde qui est dans la tech et lui poser des questions et lui dire j'ai telle problématique, voilà où j'en suis, comment tu aurais fait à ma place ? Et d'appliquer leurs idées. Parce qu'ils sont peut-être plus jeunes que nous dans l'entrepreneuriat ou même en âge, mais ils ont une vision que peut-être nous, on n'a pas parce qu'on a la tête dans le guidon.
C'est ça.
C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on prend on a une vitesse de croisière que je n'aurais pas imaginée il y a 2 ans.
Alors, c'est magnifique, tu abordes la question de l'âge. Et autant avant l'entrepreneuriat, c'était une question de grands adultes autant aujourd'hui l'entrepreneuriat est une histoire de jeunes adultes. Tu vois ce que je veux dire par rapport à cette nuance d'âge ? Avant, l'entrepreneur, c'était en général un homme. C'est le persona, on va dire. C'était un homme de 40 ans à plus et avec cette assise dans l'entrepreneuriat. Et alors que là, aujourd'hui, c'est l'effervescence chez la jeunesse, autant garçon que fille. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes de ta génération, notamment moi, etc., est-ce qu'on est vieille pour l'entrepreneuriat ?
Alors, pas du tout. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'âge parce qu'on peut très bien entreprendre à la retraite. Pour moi, il n'y a pas d'âge. On a beaucoup de jeunes, certes, mais parce que l'environnement de 2025-2026 s'y prête. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat s'est beaucoup démocratisé avec les réseaux sociaux, le digital. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'entreprendre qu'il y a 10-15 ans. Donc, c'est, pour moi, il n'y a pas d'âge. Vraiment, mais je reviens sur ta petite phrase et j'ai une anecdote sur le persona, le profil d'entrepreneur qu'on a dans l'inconscient collectif et je pense que ça persiste encore, l'homme d'une quarantaine, cinquantaine d'années, grand, enfin voilà. Moi quand j'ai créé la première fois en 2009, il y avait un système de mentorat donc avec la Chambre de commerce de Lyon et on m'a proposé un mentor qui m'a accompagnée lors des premiers rendez-vous clients. Et à un moment donné, il m'a dit, écoute, en fait, il faudrait que tu aies à tes côtés un mec un peu grand, avec un nom bien franchouillard, mais sexto.
Ok, sexto. Ok.
Voilà, ouais, comme ça, ça va t'aider. Parce que t'es arabe, t'es une femme, et en plus, t'es petite de taille.
Ok.
J'arrivais devant les comités de direction. Enfin, j'étais souvent seule avec un membre de l'équipe, et puis on avait 4-5 personnes en face de nous, parce que, enfin, on a affaire au grand compte. Mmh. Et je l'ai cru. Je l'ai fait, j'ai embauché quelqu'un. Et en fait, je me suis rendu compte, allez, au bout de 3 semaines, que ce qu'achetaient mes clients, c'était moi, en fait. C'était moi, ma personnalité, ma vision des choses, de leurs problématiques et comment j'arrivais à résoudre leurs problématiques clients. Donc oui, on avait encore cette idée-là, mais voilà, c'était mon anecdote. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai une femme en face de moi qui me dit « Oui, mais en étant femme, ça ne va pas marcher. Il faudrait peut-être que j'ai des messieurs à mes côtés. » Je leur raconte cette anecdote. Parce qu'en vrai, ce qu'achètent nos clients, c'est nous avec notre personnalité. Et ce que je constate aussi beaucoup, c'est que beaucoup de femmes essayent d'imiter les hommes dans leur manière de faire, alors que c'est notre personnalité, notre sensibilité qui fait qu'aujourd'hui, nous réussissons en tant que femmes. Alors, je ne dis pas qu'on doit s'éteindre, mais c'est cette sensibilité, mais avec beaucoup de fermeté et de bienveillance. Donc, le tout, c'est de trouver l'équilibre entre cette force qu'il doit y avoir, savoir mettre des limites, et cette sensibilité que l'on a, qui fait que l'on réussit dans nos projets entrepreneuriaux.
Donc, résumé, il n'est jamais trop tard. On a encore notre place, même si aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Arriver avec, on va dire, quelques rides et quelques cheveux blancs, ce n'est pas grave.
Moi, je dis qu'il faut surtout le faire à cet âge-là, peut-être.
Oui.
Parce qu'on a la maturité, on a élevé nos enfants, ou alors même si on n'a pas eu d'enfants, enfin voilà, il y a la maturité qui nous appuie. Et puis, il y a la maturité aussi professionnelle. On a un autre regard. Après, on peut très bien aussi avoir des jeunes dans l'équipe. Et là, ça apporte tout un équilibre. Aujourd'hui, à 50, 60 ans, les femmes sont encore très, très jeunes, très dynamiques.
Mais est-ce que le marché les perçoit comme ça ? Est-ce que les futurs, peut-être, investisseurs, les bailleurs de fonds, est-ce qu'ils les perçoivent comme des femmes encore jeunes ? Ça, c'est ce qu'on nous disons de nous, femmes.
Mais je pense que le marché, il devra s'adapter à nous. Et puis, c'est peut-être aussi à nous, si demain, il n'y a pas de bailleurs de fonds ou d'investisseurs qui veulent croire en nos projets, eh ben, serrons-nous les coudes et créons, nous aussi, notre propre plateforme d'investisseurs, de business angels au féminin.
Au féminin. Why not?
Voilà, c'est, ben oui. Moi, c'est un appel que je lance. Il y a beaucoup de femmes, justement, qui sont dans cette... qui adhèrent à cette idée-là. Il faut, après, c'est à nous d'éduquer. On ne va pas attendre des autres ou de s'adapter à nous. C'est à nous d'imposer, entre guillemets, cette nouvelle forme d'entrepreneuriat. Alors, j'entendais l'autre jour, sur deux de tes podcasts, tu as parlé du profil client senior, femme, à partir de 40-45 ans, on ne s'adresse pas à eux, et c'est vrai,
oui, oui,
mondial,
oui.
Voilà. D'ailleurs, je vais écrire un article là-dessus, tu m'as inspirée.
Ouais.
Et moi, quand je donne des cours ou des conférences, bah, au contraire, c'est un marché aujourd'hui, parce qu'il y a la maturité, elles savent ce qu'elles veulent surtout, et puis elles ont les moyens. Donc, c'est aussi aujourd'hui, oui, comme je disais, à nous d'éduquer le marché dans ce sens-là.
Fatema Boussola, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce bel échange. Un beau mot cœur hein, par rapport à toutes celles qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat à tout âge.
Eh ben oui, on leur souhaite justement de se lancer. Et ce n'est pas grave si on se trompe. L'erreur, justement, elle nous fait grandir. Et prenons juste exemple, des fois, ben, on a la chance au Maroc d'avoir... alors, je ne sais pas si c'est une chance hein, sociologiquement ou socialement, mais autour de nous, vous savez, on a des femmes qui vendent ces membrères, toutes ces petites gourmandises que l'on trouve au coin de la rue. Ben, elles aussi... C'est un acte entrepreneurial.
Bien sûr.
Parce que d'aller acheter la matière première, de la vendre, de trouver l'endroit opportun, de choisir l'heure aussi opportune. Donc, tout ça, c'est un acte entrepreneurial. Et juste regardez-les, échangez avec elles, écoutez-les et vous verrez que bah, rien n'est impossible.
Merci beaucoup, Lella Fatema. À très vite.
Merci, Yasmine. À très bientôt.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.